7h27 minutes, bon mercredi matin, un petit peu plus tôt, fin d'heure de 6, je vous posais la question, si vous êtes parent, avez-vous de la misère à gérer à la maison, au quotidien, le temps d'écran de vos jeunes, de vos ados? Et si quelqu'un d'autre, avec peut-être un petit peu plus d'autorité, venait placer des lois ou des règlements par rapport au temps d'écran et l'utilisation des tablettes et des cellulaires chez nos jeunes, est-ce qu'on serait content de ça? Ma blonde m'a texté tout de suite. Moi, je dirais oui. Moi, j'aimerais ça. Puis on a eu plusieurs textos à ce sujet-là.
Est-ce que je peux avoir une double personnalité? Écoutez, on me duplique. Et là, je suis le papa qui gère le cellulaire, puis je suis le papa cool de l'autre bord. Fait comme ça, si je gère le cellulaire avec une personnalité X, ma personnalité Y va rester. Parce que j'ai toujours l'impression que si je gère le cellulaire ou quand je décide de le gérer, bien là, c'est tout mon côté papa cool qui disparaît en un claquement de doigts.
Non, mais sérieusement, si vous êtes parent, vous connaissez la game, vous connaissez le défi aussi de gérer le temps d'écran de vos enfants, et ça serait tellement... C'est peut-être la solution trop facile, mais certainement facile à la maison de juste dire aux enfants « Ah, non, malheureusement, t'as fait ton heure de temps d'écran qui est permis par
la loi. »
Fait que désolé, tu vas être obligé d'arrêter. Puis c'est pas moi qui le dis,
non.
C'est quelqu'un d'autre. On va jaser de toute cette situation-là et on va lui poser la question, entre autres, là, les recommandations quand même drastiques. En France, le temps de cellulaire de nos enfants, les cellulaires dans nos écoles, on jase de tout ça avec Marco Mayotte, qui est psycho-éducateur, qui est conférencier et formateur. Il est au bout du fil. Monsieur Mayotte, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être avec nous ce matin, Monsieur Mayotte.
Avec un grand plaisir.
Dans vos fonctions et votre expérience, est-ce que vous avez ce genre de discussion-là une fois de temps en temps avec les parents qui disent « Hey, savez-vous quoi? Ça nous aiderait grandement avec nos jeunes, si on établissait des lois ou des règlements par rapport au temps d'écran de nos jeunes? »
Je vais vous faire une comparaison. Exemple, vous commencez à accompagner vos enfants qui deviennent des conducteurs vers 16 ans.
Oui.
Puis, il n'y a pas de règles sur les routes parce qu'on se fie sur le bon jugement de chacun. Comme dit notre enfant, vous ne voulez pas trop vite et de faire attention aux feux de circulation, mais je vais me fier sur ton bon jugement. Est-ce que vous pensez que ça serait facile de faire respecter les lois sur les routes?
Ben, la réponse, absolument pas. Là.
Ben non, ce serait impossible. Le bon jugement de tout le monde varie selon les comportements des autres autour de nous, puis on se laisse influencer par les comportements des autres. Donc, ça prenait des règles sur la route. Ça prend maintenant des règles sur le tabac pour qu'on soit capable d'être raisonnable comme société, parce que sinon, on fumerait encore dans les voitures, on fumerait encore dans les hôpitaux, dans les écoles, puis on se poserait même pas la question parce qu'on se dirait, bon, ça doit pas être tout le monde le sait, mais c'est pas une bonne raison pour pas imposer certaines règles pour aider la société à s'auto-réguler. Les parents demanderaient pas mieux que d'avoir des règles très claires pour pouvoir les appliquer. Dans les conférences, dans les formations que je donne aux parents, on me dit tout le temps, oui, mais c'est quoi la règle qui est claire? C'est quoi qu'on devrait recommander? C'est quoi qu'on devrait appliquer? On dit 2 heures, on dit 1 heure. C'est quoi exactement? Bien, c'est ça qu'il faut clarifier puis mettre en place. Parce que les enjeux de santé publique sont énormes en ce moment. On les voit, les impacts. Avant, c'était un phénomène qui était marginal. Ça venait de s'installer tout lentement. Là, ça a pris un certain temps avant qu'on voit les impacts. Et là, les impacts sont évidents. Là. On les voit, c'est sûr et certain.
Monsieur Mayotte, c'est tellement, je trouve, un, important, deux, intéressant ce que vous dites. Là, je demanderais juste, il y a quelques moments qu'on a manqué un petit peu, là, le signal rentrait moins bien. Fait que je ne sais pas la situation que vous avez au téléphone en ce moment, mais vers la fin de la réponse, là, ça se tenait bien. Fait que je ne sais pas où vous êtes, mais peut-être pas trop vous déplacer, parce que comme je dis, je trouve que c'est essentiel puis super important cette discussion-là.
Oui, désolé, mais je suis très stable, je bouge pas, donc... Je suis désolé de la...
Ben non, absolument pas, mais restez comme ça parce que là, ça rentre très bien.
C'est intéressant parce que dans les derniers jours, les dernières semaines, quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est « Hey, ben le gouvernement, mêlez-vous pas de ça, les parents vont gérer leurs affaires, puis à un moment donné, ça va être beau. » Ce que je comprends de votre discours, c'est quand même, là, le gouvernement, oui, les parents ont leur bout à gérer, mais le gouvernement a quand même le droit de discuter de tout ça, puis d'essayer d'amener quelque chose?
Hier, j'étais dans une école, puis savez-vous quoi? Je demande ça à tous les élèves que je rencontre, surtout en 5e, 6e année secondaire. sont capables d'être conscients des enjeux que ça a sur leur vie. Puis je leur demande, à quel âge vous devriez interviewer les cellulaires? À quel âge que vous devriez avoir un cellulaire en votre possession? Il n'y a pas un élève, très rarement, là, un ou deux, là, ici et là, mais rarement, un élève me dit en bas de 12 ans. Jamais, jamais. Il voit bien que ça n'a pas de bon sens. Puis souvent, ces élèves-là ont 10 ans ou 11 ans. Puis là, je leur dis, mais pourtant, 80%, 90% d'entre eux, là, de 11 ans et 12 ans, ont déjà des cellulaires en leur possession. Puis là, on voit même des enfants de 5, 6, 7 ans qui vont à l'école primaire puis qui ont déjà un cellulaire en leur possession maintenant. C'est quand même fascinant, hein?
Oui, très fascinant. Monsieur Mayotte, j'ai vu certaines recommandations de la France puis qui m'intéressent énormément. Puis il y en a une sur laquelle j'ai accroché. C'est les enfants ne devraient pas avoir de médias sociaux avant 14 ans. Puis là, on parlait tout du processus cognitif de compréhension de ce que j'écris, de ce que je lis. Pouvez-vous nous en parler davantage? Honnêtement, je trouvais ça vraiment intéressant comme point de vue.
Bien, tous les problèmes que je dois gérer, qu'on doit faire face avec des enfants qui ont été traumatisés sur les réseaux sociaux, intimidés, qui ont fait des gestes irréfléchis, exemple, partager des photos d'eux compromettantes, des photos qui ne sont pas nécessairement positives, exemple, des photos de nus, des photos d'eux pas toujours dans les bonnes conditions, qui vont les rattraper plus tard. Mais c'est tout triste, hein, sans le jugement complet qu'un enfant devrait avoir autour de 14-15 ans. Fait que si on ne leur permet pas d'aller sur les réseaux sociaux, on leur évite des problèmes qui, ensuite, est très difficile à gérer. Il y a une professeure qui me demandait hier, elle a dit, oui, mais quand quelqu'un envoie une photo d'elle, exemple, mise à un autre enfant, qui partage, comment on peut gérer la situation? C'est très difficile de ramener la photo à son endroit original du départ. Hein. Elle a été partagée parfois des dizaines, des centaines de fois. Les impacts que ça a ensuite sur l'image de la jeune fille qui a partagé cette photo-là, ça va la suivre pendant des semaines, des mois à l'école. Donc, tous ces impacts-là, je les vois beaucoup plus chez les jeunes de moins de 14 ans qui n'ont pas eu le jugement de dire « je pense que c'est pas une bonne chose ». Ça n'empêche pas qu'il y a des élèves de 15, 16, 17 ans de vitesse qui vont menacer d'autres élèves, qui vont partager du contenu qui est inapproprié. Mais au moins, on va pouvoir croire qu'il y avait au moins un peu de jugement pour pouvoir prendre cette décision-là, alors que l'enfant de 14 ans et moins, son développement de son jugement, il n'est pas encore complet. Donc, leur mettre un appareil comme ça entre les mains avec des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on va se le dire, hein, moi, je compare souvent ça à une maison des jeunes, mais sans surveillance. Je vous accueille chez nous, venez jouer chez nous, on a hâte de vous recevoir, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que moi, je vais quitter la maison puis je vous laisse tout seul.
Ah oui.
Ben, c'est sans protection, c'est sans surveillance, surtout sans sécurité. C'est ça qui est inquiétant pour les 15 ans et moins.
Absolument. On jase avec Marco Mayotte, qui est psycho-éducateur, conférencier, formateur. On jase du temps d'écran chez les jeunes. Jeff a mentionné une des recommandations là, qu'on a vu passer dans les médias là, en France. Bien, ici, dans les médias, mais les recommandations en France. Quelques autres, comme genre, moins de 3 ans, zéro écran. Entre 3 et 6 ans, écran déconseillé. Avant 18 ans, disons pas les TikTok et les autres réseaux comme Instagram non plus. Est-ce que vous trouvez ces recommandations-là, M. Mayotte, drastiques ou à la base, ça serait très intelligent et utile?
Bien, un peu des deux, je dirais. Il y a certaines mesures qu'on pourrait dire, OK, on va peut-être en négocier une partie, on va pouvoir revoir les priorités de tout ça puis mettre en place ce qui est prioritaire. Mais je vois aucune utilité à ce qu'un enfant de 0-3 ans ait un cellulaire entre les mains. Jamais, jamais que c'est bon pour son développement. Donc, être obligé de mettre une règle comme ça, c'est aussi protéger les parents puis dire, si vous le faites, là, malheureusement, c'est pas acceptable dans notre société. On le recommande pas du tout. C'est clair, net et précis. Mais quand j'allais vous promener au centre d'achat, puis moi, j'ai vu ça récemment, un enfant d'un an, un an et demi, avait son cellulaire à la main. Je vous dis, il voyait plus rien autour de lui. Là. Ouais. Il était captivé. Son œil était super attiré par les images, les sons qu'il y avait à la sortie du cellulaire. Il n'y a aucun bébé qui va résister à cette tentation-là. Même chose pour les 3 à 6 ans, il n'y a rien de positif pour eux. Alors, qu'on écoute une petite émission, La Pape Patrouille, avec les enfants, il n'y a pas de problème. Mais ça dure 30 minutes maximum, puis on est accompagné des parents. Ça ne serait pas un enjeu si c'était que ça. Mais souvent, c'est du contenu, puis il y a des enfants entre 6 et 11 ans que je rencontre, puis qui ont vu du contenu, là, ça n'a pas de bon sens qu'ils ont accès. Ils ont pu avoir accès à du contenu pornographique, ils ont eu accès à du contenu violent, mais il n'y a aucune censure, il n'y a aucune règle qui empêche ce contenu-là de se rendre jusqu'à eux. Fait qu'ils sont traumatisés après. Fait que c'est pour ça qu'il y a des règles aussi drastiques. Je comprends que les gens se disent « Ah, ça va être difficile à appliquer ». Mais quand on va les appliquer, là, c'est comme ça a été difficile quand on a dit que la cigarette allait sortir des bars et des restaurants. Mm-hmm. Les gens se sont objectés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on reviendra en arrière? Pas du tout. C'est bon pour notre futur. C'est une génération qu'on est en train de sacrifier parce qu'on apprend au fur et à mesure que c'est pas bon. Mais on le sait maintenant que c'est pas bon. Donc, il faut agir rapidement avant qu'il soit trop tard pour bien des développements. Le niveau de détresse chez les jeunes en ce moment, il est évalué à 39 %. Hey, c'est 39 % de notre jeunesse là, qui va pas bien.
Ouais.
C'est pas assez intéressant pour qu'on agisse. C'est quoi que ça prend de plus?
Absolument. Puis je suis d'accord avec vous, M. Mayotte, sur ce point-là. Et même ce que je lis entre les lignes en vous écoutant, là, puis en écoutant vos réponses, vos conseils, c'est comme dans toute chose. C'est l'abus de l'utilisation qui est le problème. Là, quelque part, il faut de l'encadrement, puis il faut gérer.
Si c'était que positif, tu sais, puis on ferait que des belles conversations, on rencontrerait des gens intéressants, bienveillants, des gens positifs qui nous amènent plus d'informations, le contenu est souvent manipulé, le contenu est souvent violent. C'est tout l'aspect de la qualité du contenu qui nous inquiète, mais aussi la quantité, parce que c'est super addictif. Fait que quelqu'un qui commence à consommer de l'alcool, là, très souvent, sa consommation va augmenter au fil du temps. Bien, notre consommation des écrans, elle augmente de plus en plus pour tout le monde, toute génération confondue, année après année. Fait que là, on va se ramasser avec une société pas mal dépendante, puis ça, à tout âge, puis partout dans le monde. Ouais. Je pense que c'est assez convaincant comme phénomène, me semble.
Absolument.
Vous parliez que ça va prendre des mesures drastiques, et justement, dans l'actualité, à l'heure actuelle, on parle de peut-être retirer les cellulaires de nos écoles secondaires. Vous êtes régulièrement dans les écoles à parler avec des jeunes. Comment vous voyez cette mesure-là, justement?
Je suis totalement pour. C'est absolument nécessaire. Premièrement, la règle de retirer ça des classes ne fonctionne pas. Les élèves prennent leur cellulaire quand même dans les classes. Et les caches sont juste plus stratégiques. Donc, c'est comme demander à quelqu'un de ne pas fumer, il va aller fumer en cassette. Ouais. C'est sûr qu'il va le faire. Donc, pour lui, là, le jeune qui est dépendant, se séparer de son cellulaire, c'est impossible. Il y en a une école qui l'a osé le faire complètement. Aujourd'hui, là, il n'y a plus personne qui reviendra en arrière, mais les élèves, quand ça a été mis en place, ils ont trouvé ça difficile au début. Les parents aussi, parce que c'est souvent les parents qui réagissent à ça, parce que c'est eux qui veulent rejoindre leurs enfants tout le temps. Puis je leur dis souvent, vous avez un sentiment, un faux sentiment de sécurité de pouvoir savoir où est votre enfant en tout temps. Il y a même des élèves qui me disaient, moi, mon parent, il me met un tag dans mon sac pour savoir je suis où en tout temps pour pouvoir me suivre à la trace. Bon, mais parfait, mais t'as-tu besoin encore du cellulaire pour être vu partout en tout temps? Là, c'est une double, triple mesure pour être capable de rejoindre notre enfant. Puis au secondaire, souvent, les enfants reçoivent des textos, des appels de qui en plein cours? De leurs parents. Donc, c'est pas nécessaire du tout qu'on soit rejoint quand on est à l'école. Puis vous savez quoi? Quand l'enfant est à l'école, il est possible de les rejoindre par le secrétariat. C'est possible que l'enfant nous appelle s'il a un besoin urgent d'utiliser le téléphone de l'école. Mais tout le dérangement, la perturbation de la concentration, quand vous êtes dérangé par un message qui rentre, là, ça peut prendre de 4 à 23 minutes pour vous remettre à la tâche, pour vous reconcentrer. C'est énorme. Puis vous le faites, vous les adultes, puis imaginez, on est des adultes responsables, on est payé pour faire ça, être responsable, puis travailler efficacement dans notre emploi, puis on se laisse déranger par ces écrans-là pareil.
Ouais.
Imaginez un adolescent en plein développement qui a besoin d'estime de soi, qui a besoin d'être reconnu, c'est bien plus important pour lui que les mathématiques ou le français, alors que son avenir en dépend en ce moment. Fait qu'on veut sortir ça des écoles le plus rapidement possible pour les aider à resocialiser, vouloir être actif au lieu d'être son cellulaire pendant l'heure du dîner, il va aller jouer avec ses amis, il va aller faire de l'activité sportive. Nos jeunes sont plus sédentaires que jamais, puis le taux d'obésité a doublé en 30 ans. Donc, c'est des indicateurs qui sont évidents, il faut agir.
Marco Mayotte, je réfléchissais à ça cette semaine, je l'ai même mentionné en ondes, je me demandais si on avait atteint le point de non-retour. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut encore modifier nos habitudes et prendre le... comme on dit, revirer le paquebot puis se remettre sur le droit chemin?
Bien, ça prend des règles claires et surtout pour nos enfants parce que eux autres, c'est la génération de demain. Ils n'auront pas connu le temps sans écran, eux autres comme nous. Puis malgré que nous, on a des indicateurs, des points de référence. Fait, OK, je sais que ça va me faire du bien si je passe quelques heures à aller jouer dehors, à aller faire de l'exercice. Je vais aller jouer au hockey dans la rue comme je faisais quand j'étais jeune. Mais non, on fait plus ça, nous, comme adultes, mais on a ces repères-là. Je sais que ça va me faire du bien si je le fais. Nos jeunes vont être nés avec un écran et ils n'auront pas rien connu autre que les écrans. Parce que c'est quand vous vous ennuyez moindrement aujourd'hui. Vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous faites? Au moindre 5 secondes que vous avez de libre, vous ne vous mettez pas à respirer puis à vous détendre. Vous restimulez constamment votre cerveau. Votre cerveau est tout le temps sollicité, 24 heures sur 24. Puis même la nuit, les jeunes se réveillent pour consulter leurs écrans. Mm-hmm. Ça prend des mesures claires, des écrans qui sortent des chambres, des écrans qui sortent des écoles. Puis ainsi, de cette façon-là, peut-être qu'on va pouvoir contrôler le phénomène un peu plus plutôt que le laisser prendre toute la place.
Marco Mayotte, psycho-éducateur, conférencier et formateur. On a eu une belle jasette ce matin sur le temps d'écran et ce grand défi-là, le temps d'écran chez les jeunes. Mais savez-vous quoi? Le temps d'écran chez les adultes aussi. Monsieur Mayotte, merci pour votre temps ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci, à bientôt.
Bye-bye.
Ça fait énormément réagir, oui, mais énormément réfléchir aussi.
L'enfer. Les images qu'il a utilisées, là, mon cerveau est en constante réflexion. S'il n'y avait pas de règles sur les routes, est-ce que tout le monde respecterait la règle? T'sais, non, clairement. Donc, quand on montre à conduire à notre adolescent de 16 ans, oui, c'est une mesure drastique, mais on a sorti la cigarette des bars et des restaurants et on s'en plaint pas, en effet. Mais moi, l'image la plus frappante, c'est... Ben, c'est comme si on met une gang d'ados dans une maison des jeunes, mais les adultes s'en vont.
Ouais. Allez-y, ça, faites ce que vous voulez. Là.
Hey, ça, j'ai fait, c'est donc bien vrai.
Ouais.
Ah, on les laisse donc bien à eux autres mêmes. Puis là, on sait ce que ça donne quand on laisse des adolescents à eux autres mêmes. Mais là, des fois, il y a des petits clans qui se créent. Puis là, on écœure un autre. Puis ici, puis ça. Ben, c'est ça qui se passe sur les médias sociaux. Cette image-là, là, je l'ai en tête. J'ai fait, il vient d'imager pourquoi je pense que je vais essayer d'être un petit peu plus restrictif.
Plus mordant.
Plus mordant. Ouais, merci. Une discussion qui fait réfléchir avec Marco Mayotte. C'est la journée du Grand McDo. Avez-vous passé chez votre McDo préféré pour, oui, vous gâter, mais en même temps donner pour cette bonne cause? Et d'ailleurs, on va parler de la cause après la pause avec Nathalie Bernier, qui est directrice générale du manoir Ronald McDonald de Québec. Quel impact que ça a, là, les sous qu'on donne et les achats qu'on fait dans les McDo aujourd'hui chez les familles du Canada, du Québec, de Québec? Et d'ailleurs, on va avoir avec nous en studio une maman qui a bien utilisé cette ressource-là, qui est le manoir Ronald McDonald de Québec. Bougez pas.